Bonjour à tous, Liliane sur Radio Grand Ciel pour l'émission Figure de l'Histoire. Ramsès II vient donc de laisser la ville de Kadesh aux mains des Hittites. Alors maintenant, il lui faut organiser son service de renseignement, reconquérir les territoires perdus, redonner à l'Égypte son rayonnement et garantir ses frontières. Vaste programme, alors, il se fait aider. Il met à la tête des services spéciaux Imhemnet, qui est tout à fait intelligent et loyal. Et puis, il décide de se rendre dans le sud, parce que d'abord, il veut se rapprocher de ses sujets. Le territoire égyptien de l'époque descendait extrêmement bas. Donc, il veut se rapprocher de ses sujets et puis superviser des grands travaux. Sur les murs des temples construits doit figurer alors la gloire de Ramsès et les formes divines qui se réfèrent à l'époque à une triunité. C'est intéressant ça, hein ? Amon, Re et Ptah. La qualité, c'est Amon. La face, c'est Re et le corps, c'est Ptah. Et leurs villes sont Thèbes pour Amon, Héliopolis pour Re et Memphis pour Ptah. Alors Ramsès descend jusqu'à Thèbes. Sur la rive gauche, il se fait construire le Ramesséum. Il apprécie de voir son image sculptée sur les piliers. Un colosse est érigé contre le montant sud de la porte et on se prépare à construire un autre colosse au dehors. Les statues sont énormes, elles mesurent 15 coudées. Je vous rappelle que la coudée, c'est la distance entre l'extrémité de la main et le coude, c'est-à-dire à peu près 50 cm. C'est la hauteur de l'inondation idéale. De part et d'autre de la porte de l'hypostyle, un registre est consacré au nord à la liste des filles de Ramsès et au sud à la liste de ses fils, qui sont extrêmement nombreux, parce qu'en dehors des deux épouses royales, il en a plein d'autres. Sur cette rive gauche de Thèbes, Ramsès contrôle aussi les travaux d'un édifice à la gloire et à la reconnaissance envers Toui. Toui, c'est sa mère. Elle a secondé son père, Séti, et maintenant elle est co-régente toutes les fois que Ramsès s'absente, et en attendant que son fils soit en état de gouverner. Alors dans ce temple, il y a une chapelle qui est réservée à l'épouse royale, Nofretari. Ramsès quitte Thèbes pour la province nubienne afin de continuer son programme d'édification de sanctuaires qui sont voués aux formes protectrices de son empire dont dépend l'inondation créatrice. Alors, il arrive à Sienne, qui actuellement est à Soin. C'est le plus grand marché de tout le continent. Là se côtoient toutes sortes d'ethnies. On y trouve d'énormes magasins sous la responsabilité des vice-rois de la Basse et de la Haute Nubie. Ça correspond au Soudan. Ces derniers maintiennent l'ordre et ils reçoivent les impôts en nature. Alors, quels impôts ? Eh bien, l'or, les bois précieux, c'est-à-dire l'acajou, le palissandre, l'ébène, des peaux de fauve, des œufs, des plumes d'autruche, des défenses d'éléphants, des pierres semi-précieuses, des guépards, des panthères, des lions, des girafes. Les Nubiens, qui sont absolument maîtres en construction navale, fabriquent des bateaux qui sont acheminés jusqu'à Assouan pour être dirigés après ça vers la métropole. Ramsès et Nofretari quittent alors Assouan pour la Basse Nubie. Et alors ils sont très étonnés. Non, sa femme est étonnée parce que le paysage est très verdoyant, ça ressemble pas du tout à ce qu'on trouve dans le delta. Il y a des palmiers dattiers, des mimosas sauvages. Dans chaque agglomération, il y a un sycomore sur la place du village. Alors là, il n'y a pas de chapelle funéraire, parce que les Nubiens, eux, sont fidèles à leurs racines et à leurs traditions, si bien qu'ils se font enterrer simplement dans une peau de chèvre. Les bateaux donc s'arrêtent à l'endroit où les caravanes venant du désert libyque font halte. Et c'est là que Ramsès fera construire un grand temple dédié à Amon. Actuellement, ça porte le nom de Wadi Es-Sebul, c'est la vallée des lions. En attendant, le pharaon s'arrête pour visiter un sanctuaire érigé par trois pharaons successifs, Thoutmôsis III, Amenophis II et Thoutmôsis IV. Et son attention est attirée par l'image de la barque sacrée qui domine une stèle couverte d'hiéroglyphes incrustés de pigments bleus. Et alors, cela lui donne l'idée que les quatre grands sanctuaires qu'il fera construire en Nubie seront d'immenses reposoirs de la barque divine d'Amon-Ré, symbolisant l'arrivée de l'inondation bienfaisante. On remonte en bateau pour arriver dans le pays de Kouch. C'est la résidence du vice-roi. Et Ramsès veut montrer qu'il y a là une présence égyptienne officielle. Nofretari et Ramsès remontent après vers l'Égypte du Nord. Ils se sont absentés quelques mois. Et Pharaon apprend alors que les états vassaux se rebellent. Alors, il arrive à repousser les chassous. Les chassous, ce sont des bédouins qu'on trouve en Palestine du Sud. Et puis, après ça, il les met en dehors de Canaan. Canaan, c'est tout à fait en bas de la Palestine. Il s'attache à faire rentrer les impôts dus par les vassaux du Canaan. Le vrai souci de Ramsès se situe en Palestine orientale, à l'est et au sud de la mer Morte. Les populations de Moab. Moab, c'est l'ancien royaume qui se trouve tout à fait sur la vallée, dans la vallée du Jourdain, et Édom au sud de la mer Morte. Ils veulent secouer le joug égyptien. Donc Ramsès, à ce moment-là, qui a 32 ans, juge que son fils aîné peut bien l'aider. Il va donc lui confier une responsabilité importante dans la stratégie qu'il va entreprendre. Alors, je vous dispense de la stratégie parce que c'est tout à fait militaire et c'est un peu compliqué. L'armée de son fils et la sienne progressent vers le nord sans rencontrer une grande résistance. Ils s'arrêtent à Témesque. Témesque, c'est le Damas actuel, pour gagner la ville de Koumidi, c'est au nord de Damas. Ils sont remontés quand même assez haut, hein, au niveau de l'actuel Beyrouth. On se demande s'il faut situer à cette époque l'exode que la Bible, parce que la Bible fait état de cet exode à ce moment-là. Alors là, je vous dis moi ce que dit Christiane Desroches-Noblecourt. Elle dit que le nom de Moïse, c'est la déviation d'un nom très égyptien. Certains prisonniers de guerre, qui après ça ont été affranchis, demeurent définitivement en Égypte. Leurs enfants sont éduqués à l'égyptienne, beaucoup font carrière dans le pays, et on en retrouve même certains dans l'entourage immédiat du pharaon. Donc, il n'est pas impossible que Moïse ait été l'un de ceux-là. En effet, dans les Actes des Apôtres, on lit qu'il a été instruit de toute la sagesse égyptienne, qu'il l'a rendu puissant en parole et en actes, et qu'il avait été élevé à la cour du pharaon. Donc ça n'est pas impossible. Rappelons que Ramsès n'a jamais été xénophobe. Hein. Il utilise tous les étrangers, y compris les Chinois. On possède un document où l'on apprend qu'une dame égyptienne que Ramsès avait fait affranchir, eh bien, elle-même a fait affranchir trois de ses esclaves et les a adoptés. Alors que Moïse ait été présenté comme le fils adoptif de la fille du pharaon, ça n'a rien d'impossible. Nous allons faire une première pause musicale. sur Radio Grand Ciel et je vous raconte la vie de Ramsès II. Donc, on en est au récit de l'Exode que l'on retrouve dans la Bible. Et voilà que Christiane Desroches-Noblecourt dit que c'est bien difficile de s'appuyer sur quelque chose. Est-ce qu'il y a eu vraiment un exode de travailleurs étrangers? Eh bien, il n'existe aucun document égyptien qui fasse allusion à un départ d'étrangers hors du pays à cette époque. Alors, on peut avancer une hypothèse si l'on place le début de l'Exode durant la période préliminaire à l'expédition de Ramsès. Dans le récit de l'Exode, Pharaon empêche les Hébreux de sortir. Hein, et il a donc des plaies qui arrivent sur l'Égypte pour laisser sortir les Égyptiens. Eh bien, Christiane Desroches-Noblecourt dit que la raison pertinente qui aurait pu pousser Pharaon à refuser de laisser partir donc cette population est qu'ils étaient éventuellement susceptibles de se joindre aux chassous dont je vous ai parlé tout à l'heure, ce qui aurait pu gêner le mouvement des troupes égyptiennes. Quant aux plaies d'Égypte, qui sont citées dans l'Exode, eh bien, pour que Ramsès laisse partir les Hébreux, les cendres dont il est question, ça rappelle le cataclysme de l'île de Santorin, et d'autres phénomènes s'expliquent par les crues du Nil. Mais la mise à mort des enfants mâles appliquée aux aînés, c'est pas du tout une coutume égyptienne, mais plutôt une coutume phénicienne. Et qui plus est, dans l'Exode, on dit que le fils aîné du pharaon est mort. C'est faux, parce que le fils aîné de Ramsès n'est pas mort et il va même lui succéder. Alors, il apparaît que ce récit biblique, finalement, c'est le résultat d'un brassage de faits indépendants les uns des autres qui remonte à diverses époques. Plusieurs historiens sont d'accord avec ça. Dans l'état de nos connaissances actuelles, on ne peut mettre en regard la chronologie du règne de Ramsès et celle du récit biblique. Alors, on revient à l'expédition du pharaon. Il réorganise son armée. Il construit des bases d'entraînement qui sont installées dans la zone occidentale du delta. Et à cause des incursions des semi-nomades libyens, on va construire comme une sorte, j'allais dire, de ligne des Vosges. La région est équipée d'une chaîne de châteaux forts, sur plusieurs centaines de kilomètres. Pharaon prospecte lui-même les carrières pour en extraire les pierres magnifiques qui vont servir à la construction. Il a même un don pour trouver de bons filons. Et il a à cœur le bien-être de ses artisans. Ils sont bien payés, le plus équitablement possible. Alors, comme il va partir en expédition, il a bien tracé le programme des travaux. Donc, les artisans vont faire les travaux prescrits par Ramsès, et lui, il s'en va avec son fils. Au nord de Gaza, il reprend les villes cananéennes. Il poursuit son chemin au nord, au-delà de l'Euphrate, dans une région que les Hittites, je vous rappelle que les Hittites étaient un peuple originaire d'Anatolie, c'est-à-dire ça correspond à peu près à la Turquie d'Asie, occupe. Il conquiert Dapour, au sud d'Alep. On retrouve les images de cette conquête dans le temple de Louxor. Et Pharaon estime que ses soldats ont été à la hauteur, donc il va les récompenser. Alors il leur distribue des terres, il les honore en public. De nombreuses stèles sont gravées. On peut y admirer le roi debout sur les genoux d'un colosse, distribuant des coupes, des objets en or, des colliers. Après sa conquête, Ramsès laisse sur place, une petite garnison égyptienne. Ah oui, mais ça, c'était pas suffisant, parce qu'elle ne peut pas s'opposer à l'ennemi, à la place forte, et la place forte est reprise. Alors, que décide Pharaon ? Eh bien, de repartir avec des troupes vers ce Proche-Orient. Vers 1270-1269, avant Jésus-Christ, donc il conduit l'attaque devant Dafour. Et dans sa détermination à vaincre, il en oublie même de revêtir sa cotte de maille. Et il n'est même pas blessé. Alors tout le monde dit, c'est miraculeux, il est invulnérable. Et évidemment, tout ça s'est gravé sur les temples. Il a tout à fait le sens de la communication, Ramsès II. Alors, il pénètre dans Dapour et la ville se soumet. En revanche, après le départ de Ramsès, les villes syriennes retombent sous la coupe du vice-roi des Hittites. Pharaon se dit alors, peut-être qu'au lieu de me précipiter avec mon armée, ce serait aussi bien que je sois diplomate. Donc, il va lancer un grand programme de diplomatie avec le roi Hittite. Il a à ce moment-là 35 ans. Les Hittites, pour l'instant, lui laissent quelques répits. Le nouveau roi, il est absolument nul et il est en butte avec son oncle, qui lui, on peut dire, serait quand même plus digne de régner que le neveu. De plus, la Syrie s'occupe de conquérir certains territoires hittites. Donc l'Égypte, pour l'instant, est tranquille. Nous allons faire une deuxième pause musicale. Nous sommes toujours sur Radio Grand Ciel. Je vous raconte la vie de Ramsès II qui entreprend, plutôt que des conquêtes militaires, d'user de diplomatie avec le roi Hittite. Et le roi Hittite est occupé ailleurs. Donc pour l'instant, tout est calme et l'Égypte connaît alors l'opulence. Les impôts rentrent bien, tout est calme. Alors Ramsès se rend à Thèbes pour la nomination d'un nouveau grand prêtre. Il en profite pour visiter les chantiers des temples. Et voilà que des troubles se produisent dans la région de la troisième cataracte. C'est au sud. La première, elle se situe au niveau d'Assouan. Et la deuxième, elle est entre Bouenne et Mirjissa. C'est le Soudan actuel. Ramsès envoie alors des troupes cantonnées à Thèbes et à la tête le vice-roi et quatre des fils du vice-roi. De plus, il joint à ses troupes son huitième fils, qui est né de Nofretari, et le 13e fils qui est né d'Isis Nofret, la deuxième grande épouse royale. Et pour appliquer sa politique de diplomatie, Pharaon s'allie alors au roi de Babylone. On rappelle que Babylone, c'est sur l'Euphrate, hein, en Mésopotamie. Il s'appelle Kadashman Turgu. Puis, il tente de se rapprocher de Salmanazar Ier, le maître des Syriens. Et il accueille sur ses terres le neveu hittite, le nul, qui s'était échappé. L'Asie mineure connaît alors des bouleversements qui font que cela garantit la sécurité de l'Égypte. Il est en otage, finalement. En effet, les Hittites sont trop occupés par leurs ennemis voisins. Ramsès a alors 44 ans. Il possède un nombre assez impressionnant d'épouses secondaires égyptiennes, mais aussi asiatiques, à cause des accords conclus avec ses vassaux asiatiques. Le harem, par exemple, de Mi'ur, près du lac de Fayoun. J'en profite pour vous dire que Fayoum, c'est la plus ancienne région agricole de l'Égypte. Alors, donc, ce harem est dirigé par la reine-mère et comprend des demeures fastueuses des grandes épouses royales. Et d'autres harems sont implantés en province, par exemple celui de Memphis. Les deux grandes épouses royales ont donné de nombreux princes et princesses, Nofretari et Isis Nofret. Mais les épouses royales, les princes, les princesses, tous alors, assistent aux festivités d'inauguration de Spéos. Ce qu'on appelle un Spéos, c'est un temple qui est creusé dans la roche, qui se trouve à Abou Simbel. C'est juste un peu au-dessus de la frontière avec le Soudan, au nord de la deuxième cataracte. Chaque année, lorsque l'étoile Sirius resplendit de nouveau à l'horizon, se manifeste l'inondation. C'est un phénomène cyclique qui doit être garanti par l'action du pharaon qui doit obéir à des rites appropriés. Après les cérémonies mystérieuses du Saint des Saints, le rite final est mimé par deux acteurs, Ramsès et Nofretari, devant les deux grottes, en présence des prêtres du Nil et des grands de la cour. La divine barque de Thoth, Thoth c'est le dieu lunaire, conservée dans la salle creusée à même le rocher, est placée alors sur la nef royale. L'accueil de cette barque est fêté à Thèbes à l'arrivée du flot. À la fin de la cérémonie, Ramsès se rend seul devant le Spéos, dit Shek, c'est une petite colline, pour contempler le dernier colosse sud qui le représente. Après toutes ces cérémonies, alors, qui correspondent donc à l'inondation, retour vers le delta, mais on s'arrête à Thèbes pour pénétrer dans la grande cour du temple de Louxor, que les architectes du roi sont en train de faire achever. Arrivé dans le delta, Ramsès apprend que de nobles voyageurs hittites sont arrivés et ont pris contact avec le bureau des affaires étrangères. Nous allons faire une troisième pause musicale. Thank you. toujours sur Radio Grand Ciel, je vous raconte la vie de Ramsès II, qui préfère la diplomatie à la guerre, et il voit arriver à sa cour le roi des Hittites, qui s'appelle Hattusil, pour, disons, faire un traité. Alors ils se mettent d'accord sur une solution de compromis. Ramsès abandonne l'idée de posséder la citadelle de Kadesh, mais les Égyptiens peuvent circuler librement sur la route commerciale qui longe la côte jusqu'à Ougarit, c'est en face de Chypre. L'Égypte garde ses droits sur Canaan. Les deux souverains signent alors un traité. C'est le premier traité connu de l'histoire. Il est rédigé en babylonien, c'est la langue diplomatique de l'époque. Ramsès a alors 46 ans. Le traité est rédigé sur une grande tablette d'argent, très brillante, gravée sur les deux faces de signes cunéiformes. Pharaon fait alors appel à son scribe interprète pour la traduction du traité en égyptien. Les copies sur papyrus sont déposées au bureau des affaires étrangères. Ramsès donne l'ordre que le document soit gravé à Thèbes en hiéroglyphes sur les murs de Karnak, où il est pour la première fois déchiffré par Champollion. C'est quand même épatant qu'il ait fait graver tous les événements qui se sont produits pendant son règne, parce que comme maintenant on sait traduire les hiéroglyphes, vraiment on a là des documents épatants. Donc le traité propose fraternité et paix. C'est un traité de non-agression et même d'assistance mutuelle contre tout agresseur. Son contenu présente des traits du droit international encore en vigueur de nos jours. Les empreintes du sceau hittite impressionnent tout à fait Ramsès. Et en effet, pourquoi ? Eh bien, on y trouve l'image de Seth protégeant le roi hittite. Or, Seth, si vous vous souvenez ce que j'ai déjà raconté, c'est le patron de sa famille, lui, Ramsès. Seth, le rouquin, comme lui. Et l'une des phases du sceau officiel est réservée à la reine, considérée chez les Hittites comme l'égale du roi. Elle est aussi la souveraine du pays. Alors, Ramsès ne veut pas se montrer quand même moins libéral que Hattusil, si bien qu'il demande à Toui, sa mère, et Nofretari, de correspondre avec la reine des Hittites qui s'appelle Pudukeja. Peu de temps après, voilà que la maman de Ramsès II s'éteint. Toui, son nom. Pharaon en est absolument effondré. Elle l'aidait beaucoup. Quand il partait en expédition, c'est elle qui dirigeait le pays. La sépulture de la reine Mène a été creusée dans la vallée des Reines. Champollion qui l'a découverte. Une très belle tombe, mais creusée dans un mauvais calcaire. Les parois étant trop friables, alors on les a recouverts à l'époque d'une couche de plâtre fin dont le décor est polychromé. Tous les objets retrouvés dans sa tombe portent son nom, donc on est sûr qu'il s'agit bien de la tombe. Entre les années 23 et 26 du règne, les détails manquent sur l'existence et les activités des membres de la famille royale. On ne sait pas trop ce qui s'est passé à l'époque. En revanche, on a des preuves nombreuses de l'opulence des pays et des richesses accumulées dans le temple d'Amon à Thèbes. Après avoir perdu sa mère, Ramsès, alors âgé de 51 ans, perd son épouse Nofretari. Pendant toute la préparation de la momie, Pharaon laisse pousser sa barbe en signe de grand deuil. Les maigres vestiges de la tombe de Nofretari sont conservés au musée de Turin. Alors revenons à la bonne entente entre Ramsès et le Hittite. Les échanges commencent sur le plan commercial, puis les Hittites font appel à la science des Égyptiens, en particulier aux médecins et aux pharmaciens, puis aux artisans. Ceux-ci produisent de merveilleux tissages à partir d'un lin très transparent, de merveilleux bijoux très élégants. En revanche, les Hittites fournissent du fer aux Égyptiens. Ramsès a alors 56 ans. C'est la 30e année de son règne qui est célébrée par une grande fête. Et cette fête, elle doit se répéter tous les 3 ans. on ne dispose pas beaucoup de renseignements à ce sujet. On sait que tout ce mystère se déroule au milieu aquatique. Toute la population est associée aux parties publiques de la cérémonie. Vers l'an 31 de son règne, on avertit Sa Majesté que des secousses sismiques ont été ressenties dans la région thébaine. Le grand temple d'Abou Simbel en subit les conséquences. Les dégâts sont réparés au mieux. Et voilà que Ramsès souhaite épouser la fille du roi Hittite. Alors elle est fort belle. Pendant l'année du deuxième jubilé, Hattusil, le roi Hittite, accepte cette union, qui plus est, et en plus, il propose une très belle dot. Alors on prépare les appartements de la belle, très raffinés, terrasses élégantes avec loggias, jardins où poussent des roses trémières, les camomilles, les pavots, les bleuets, le papyrus, le lotus, des tonnelles de vignes, des sycomores, des palmiers dattiers. On blanchit les façades, on nettoie les rues. La chronique du voyage est gravée sur une grande stèle à Abou Simbel. La belle voyage juste avant l'été de la Saint-Martin. Vous savez, c'est au niveau du 11 novembre. Il y a une légende qui dit que lorsqu'on a transporté le corps de Saint-Martin, alors qu'on est au mois de novembre, tous les buissons se sont mis à refleurir. C'est pourquoi on appelle ça l'été de la Saint-Martin. Alors Ramsès, il fait croire à une intervention de Seth sur les intempéries, c'est-à-dire une intervention de son aïeul, n'est-ce pas, sur les intempéries, pour que des jours d'été surviennent à ce moment-là et que le voyage se passe bien. On y croit. Le mariage donne lieu à des fêtes somptueuses. De tous les fils, l'un est resté célèbre, de tous les fils de Ramsès. Il est talentueux et il s'appelle Khaemouaset. Sa mère, c'est l'une des deux épouses royales, Isis Nofret. C'est, on peut dire, l'intellectuel de la famille. Il est archéologue dans l'âme. Il entreprend la restauration des monuments du passé, la pyramide de Djéser, celle de Cheps, Sefat Doumas et de Saouri, et le temple de Néhousséri. La littérature souligne ses talents de savant et de magicien. Alors c'est lui qui prépare le troisième jubilé. Ramsès a à ce moment-là 62 ans. Lui-même, le fils, il est encore à l'origine du quatrième, quand Ramsès a 65 ans. Et là, Ramsès commence à souffrir des débuts d'une arthrose cervicale. Fin de sa 40e année de règne, Pharaon décide d'épouser une seconde princesse hittite, la sœur de la première. Ce qui est intéressant, c'est que la dot est encore considérable. En l'an 42 du règne de Ramsès, le roi des Hittites meurt. Lui succède alors le prince Ishmi-Saruma, qui prend le nom de Tutkhalia IV. Les bonnes relations entre les deux pays continuent. Le prince, le fils dont je vous ai parlé, Khaemouaset, célèbre pour la dernière fois le cinquième jubilé de son père. Ramsès vient d'atteindre 70 ans. Il marche avec une canne, le dos courbé. À 76 ans, il est très fatigué. Il suit de loin les cérémonies du huitième jubilé. En l'an 55 du règne, c'est toujours le fils qui disparaît, qui ne fait pas la cérémonie. En 1853, Auguste Mariette découvre à Memphis des vestiges ayant appartenu à l'équipement funéraire du prince, en particulier de fastueux bijoux en or. Les jubilés se succèdent. Ramsès ne quitte plus son palais. Il souffre d'une artériosclérose qui attaque les circuits sanguins. Les médecins se déclarent impuissants. On précipite alors les jubilés et on n'a pas le temps de fêter le 15e. À 92 ans, le cœur de Ramsès s'arrête. C'est le début de l'inondation en 1213, avant notre ère. Au revoir à tous.